Autre radio, autre culture, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ambiance chinoise. Nous allons avoir plusieurs émissions sur la Chine et la psychanalyse. Et ce premier volet traite sur l'ambiance chinoise en psychanalyse. Alors, nous avons la participation d'Annie Hardin. Bonjour Annie.
Bonjour. Nous recevons aujourd'hui deux jeunes étudiants chinois qui sont à Paris pour une formation en psychanalyse. Je salue donc Yang Yu.
Bonjour.
Et Yan Rolai.
Bonjour.
Tous deux viennent de Chengdu, province du Sichuan, en Chine. Tous deux ont été initiés à la psychanalyse en Chine par le professeur Rou. Le professeur Rou ayant lui-même suivi une formation à Paris et ayant fait une analyse avec le psychanalyste français Michel Guibal. J'avais envie de commencer par demander à nos amis chinois de nous tracer leur parcours du Sichuan à Paris, ce qui les a motivés, comment ils ont rencontré en Chine donc la psychanalyse et comment ils sont ici aujourd'hui.
D'accord. Moi, j'ai eu une formation d'abord en psychologie pendant 1999 à 2003. Et moi, je suis beaucoup intéressée à travailler avec des gens et parler avec des gens. Et il y a un de mes professeurs m'a dit que peut-être tu peux voir une fois professeur Rou. Il y a un groupe de travail sur la psychanalyse. Peut-être tu serais intéressé. Et puis j'ai assisté le séminaire week-end de M. Rou et en 2003. Et voilà, donc j'ai suivi le séminaire de ce groupe. Et
ça vous a intéressé, je crois.
Oui.
Vous m'avez parlé de votre motivation à poursuivre et à venir poursuivre donc à Paris, puisque c'était le parcours de votre maître, à partir de la notion de liberté.
Exactement. Je pense, au fond, c'est un parcours de la libération, de ma choix. Et parce que, je veux dire, la libération, c'est un côté... C'est pour chercher un métier plus libéral. C'est-à-dire, par exemple, si je travaille dans une université, là, je dois obéir les règles d'une université. Et puis, dans chaque institut, il y a toujours des règles qu'on doit obéir. Et puis, la psychanalyse... Ce métier, c'est plutôt un métier libéral. Je peux organiser moi-même. Un autre côté, c'est une parole libérale. On a notre propre parole, c'est ce côté-là. Voilà. Et puis, y a une chose importante pour moi, c'est en 2004, il y a une conférence internationale à Chengdu, à Omeishan. Là, la première fois que j'ai témoigné la liberté des psychanalystes françaises m'a attiré beaucoup. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, et peut-être là, c'est un
moment déclencheur.
Exactement. Un moment tout changeant, un moment tournant.
Oui, c'est ça. Donc en 2004, lorsqu'il y a eu des conférences à Chengdu avec des psychanalystes français et le professeur Rou, invité par l'université.
Oui, il y a les psychanalystes français et les psychanalystes chinois. Donc quand même, il y a des points où on ne soit pas d'accord, mais la façon qu'on discute, c'est très libéral.
Oui. C'est la liberté de discussion. De confrontation des points de vue qui vous a attiré, cette liberté de parole dans la confrontation des points de vue.
Oui, je pense.
Alors, j'en profite pour dire que dans votre travail en France, vous avez choisi de faire une thèse sur...
Sur la sexualité féminine. Et je m'appuyais sur un roman classique chinois et qui s'appelle Les fleurs dans le miroir. Et c'est un roman dans la Qing dynastie en 18e siècle. Et c'est un roman qui raconte une histoire, une petite fille, comment il cherchait en cherchant son père. Et dans ses parcours, et il a retrouvé sa féminité. Voilà. Et cette idée vient de moment que quand j'ai fait mon mémoire en master et j'ai fait un mémoire sur le sujet du narcissisme chez Freud au stade du miroir chez Lacan. Et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces évolutions de concepts entre ces deux personnes, comment les concepts changeaient. Et puis, c'est par ce moment-là, j'ai pensé, parce que ces deux concepts occidentaux, et puis j'ai pensé, si je dois vous continuer, il faut réfléchir à ma propre culture et comme ça, je peux peut-être le concept pour appliquer en Chine. C'est pour cela et je reviens dans ma propre culture. J'ai cherché dans les romans classiques. C'est pour ça que j'ai choisi ces thèmes.
Ça voilà. Implique donc la recherche d'une transformation théorique de ce qui pourrait s'appliquer ici, par exemple en France, puisque c'est un roman qui appartient à une autre culture où vous allez retourner travailler lorsque vous aurez fini vos études en Chine.
Oui.
Bon, maintenant, on va peut-être demander à Yan Relai de nous faire part aussi de son parcours entre le Sichuan et Paris.
Comment j'ai dit, je pense peut-être c'est le destin.
C'est le destin.
C'est le destin, oui, c'est mon destin. Et je suis venu de un petit village de la Chine. Et quand je suis petit, et mon village est très pauvre.
Très pauvre,
oui. Quand je suis 5 ans, dans mon village, il y a l'électricité. Et le 7 ans, la première fois, je regarde l'électricité. Et puis, à cause de politique formée, mais la Chine, il changeait beaucoup, il changeait très beaucoup. Mais je crois qu'à cause de ça, je peux entrer dans l'école, je peux être dans le lycée, et puis je peux être dans l'université. Mais quand je... quand je de l'école à l'université, dans le chemin, je toujours cherche quelque chose. Mais je cherchais quelque chose dans le livre, mais je lis le livre, l'histoire chinoise, et les philosophes, et la pensée chinoise.
C'est un grand lecteur, je crois.
Oui, mais pour moi, je n'ai pas trouvé la place très, 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 très confortable sur moi. Un jour, dans l'université, je crois que c'est par hasard. Oui, par hasard, j'ai entré dans une salle. En ce moment-là, dans la salle, le monsieur Ho est avec tout l'autre psychologie et faire la conférence sur la psychanalyse. Mais j'ai entendu et je pense que c'est très bien. Donc, après la conférence, j'ai demandé le monsieur Ho, est bon, et je veux suivre vous et prendre le psychanalyse. Et il a dit, bon, mais dans le samedi après-midi, il y a un séminaire pour discuter le livre de Freudien en anglais, Freudien. Bon. À partir là, tout le samedi après-midi, j'ai participé le séminaire. Et puis, je prends le psychanalyse.
C'est ça, c'est parce que vous êtes rentré par hasard dans une salle où on parlait de psychanalyse,
oui,
que ça vous a accroché, en quelque sorte, la psychanalyse.
Oui, oui, oui.
Ce fut le coup de foudre, comme on dit en France.
Et alors là, en France, vous préparez, vous aussi, vous travaillez une thèse sur quel thème ?
Le titre de ma thèse, c'est le caractère chinois et sa part avec l'inconscient freudien.
Ça ne doit pas être très très facile de trouver beaucoup de personnes pour vous aider. Vous arrivez à trouver des gens très spécialisés dans le caractère chinois ici, ou vous trouvez par vous-même dans les bibliothèques. Ça doit être un peu compliqué de faire une thèse aussi spécialisée.
Oui. Être ici, à Paris, je peux prendre beaucoup de théories sur l'inconscient freudien. Oui, ça peut aider moi beaucoup. Mais le caractère chinois, je trouvais quelques sinologues. Il peut m'aider, mais soi-même, je dois faire beaucoup de travail sur le caractère chinois. Le caractère chinois, je pense que la langue chinoise et la langue occitane un peu différent.
Oui.
Peut-être différent.
Oui, peut-être vous pourriez nous en dire quelques caractéristiques justement de cette différence.
Mais je pense pour chinois, le différent, peut-être on peut fixé en le caractère chinois. Maintenant, je peux dire une petite chose. Je trouvais une petite chose peut-être un peu intéressée, un peu intéressante. Le Chine, dans le gouvernement ancien, beaucoup de grands partiments, ça s'appelle Shu. Chou, ça veut dire le caractère, l'écriture. Oui. Mais en France, je trouvais un mot, c'est le parlementaire.
Oui, oui. Parlementaire.
Parlementaire, c'est
donc
quelqu'un
qui parle.
C'est quelqu'un qui travaillait dans le gouvernement.
Oui.
Voilà. C'est en Occident, peut-être les traditions parlent. Les traditions de parole, c'est très très faux. Mais en Chine, peut-être un peu, pas très très faux qu'en Occident. En Chine, il y a toujours écriture.
C'est Chou qui est l'écriture, et donc, au lieu de parlementaire, quel est le mot chinois ? Il y a écriture dans le mot chinois qui correspond à parlementaire, c'est ça ?
Oui, je pense comme ça, oui. Mais dans mon pratique, parfois je fais la méthode de l'écriture dans mon pratique.
C'est ça, vous avez eu, je crois, l'occasion de pratiquer lors du tremblement de terre du Sichuan,
oui,
où vous avez secouru en écoutant les victimes du tremblement de terre.
Oui.
Et je crois que là, vous auriez des exemples à nous donner, des anecdotes de votre écoute, comment vous écoutez justement quelqu'un qui, avec et l'écriture et la parole, dans des cas comme cela.
Oui, je peux dire un cas sur le caractère chinois, oui, sur l'écriture. C'est un jour que je travaillais là, j'ai accepté une petite fille. Une petite fille a 8 ans, et en Chine, c'est le 12e grade dans l'école.
Oui.
Donc, il peut écrire beaucoup de caractères chinois. Il peut écrire. Et la petite fille, elle ne veut pas entrer dans le bâtiment. Il ne veut pas entrer dans le bâtiment. Après le tremblement de terre, l'école est déménagée dans une grande ville. Donc en ville, mais c'est au début, c'est l'école, c'est dans le bâtiment, mais le petit fille, il veut pas entrer dans le bâtiment. Mais si
en France, on dirait elle est phobique maintenant cause du traumatisme, elle peut plus rentrer dans les bâtiments.
Oui, oui, mais c'est dans le bâtiment, c'est à cause de son autre camarade. Il criait, il pleurait, donc le professeur, il peut pas laisser le petit le fille dans la classe. Et puis le parent avec le petit fille, il cherchait l'aide de psychologue. Donc ils sont chez moi dans une maison consultation. Oui. Mais au début, je travaillais avec le petit fille, il veut pas parler. Il toujours silence et reste là. Mais je laisse elle faire le dessin. Mais parfois, il fait le dessin. Mais parfois, je demandais le question du dessin quoi. Mais il répond. Mais le dessin, il n'est pas changé beaucoup. Et c'est un jour je propose la petite fille, on peut faire un jour nous ensemble écrire les caractères chinois. Les caractères chinois, ils composaient beaucoup de traits. Parfois j'ai écrit quelques traits et elle, il ajoutait quelques traits. Ou il écrit quelques traits. J'ai ajouté quelques traits.
Une technique winnicottienne de faire un trait et l'analyste ajoute un trait et l'enfant continue avec un trait.
Voilà, c'est Winnicott a donné moi l'idée. Oui, c'est au début, en France, je lis le texte de Winnicott.
Le squiggle. Squiggle.
Oui. Il y a l'enfant, il est son père est nourrier dans le
loyer
dans le, mais j'oublie le oui. Titre. Mais
c'est votre petite fille et vous qui nous intéresse, je crois.
Oui, mais puis nous jouer comme ça et la petite fille, il était intéressée, ce jour. Donc après je nous fais comme ça, il écrit nous ensemble écrit beaucoup de caractères chinois, son nom, son prénom et son de l'école, beaucoup, plein de choses. Et puis un jour il écrit le mot, c'est en Chine c'est cadavre, le mot est cadavre. Cadavre. Il écrit un mot, mais je suis un peu étonné parce que l'enfant il a écrit le mot cadavre. Donc je dis la fille, je ne sais pas, je peux ajouter quel mot, quel caractère pour composer, devenir un nouvel caractère. Mais la fille m'a dit, tu peux ajouter nuage. Ouais. Ajouter nuage, mais c'est devenu un nouvel caractère chinois, c'est étage. C'est étage.
Cadavre et nuage, donc, deviennent, lorsque les deux caractères chinois sont mis côte à côte, deviennent un autre mot qui est étage.
Oui, oui, étage, le premier étage, le deuxième étage. Et après, l'enfant, il peut parler beaucoup de choses sur comment s'est passé dans le tremblement d'air, qu'est-ce qui s'est passé dans le bâtiment? C'est le bâtiment de son bâtiment, quatrième étage, le premier étage est tombé, mais quelques gens, ils sont morts dans l'étage. Au début, il écrit le dessin, le bâtiment est tombé, mais il peut pas dire quelques gens et moi dedans. Et oui, il peut pas dire, mais après il peut dire ça.
C'est amusant parce qu'en fait elle a pas pu le transcrire en dessin normal, de faire des cadavres avec une maison, enfin un immeuble, mais elle l'a transcrit en écriture chinoise.
Elle a transcrit, si je comprends bien, je vais expliquer un peu. Elle a transcrit un caractère qui était cadavre. Vous savez, à sa demande, écrit nuage. Donc, cadavre et nuage, c'est devenu étage. Et à partir de l'écriture du mot étage, il y a eu une levée du refoulement. Et elle a pu parler de ce qui s'était passé dans les étages. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, le premier étage, les gens étaient morts. Mmh. Le quatrième étage, les gens étaient morts. Et elle, elle habitait, je crois, au deuxième ou au troisième étage.
Au deuxième étage, oui.
Et à partir donc, de cette écriture de sa part et de votre part, il y a eu une, ce qu'on appelle en psychanalyse une levée du refoulement, une possibilité de parler quelque chose de traumatique qui lui a permis de se libérer de son symptôme de phobie. Si j'ai bien compris, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Alors, en fait, les Chinois ont beaucoup plus de chance que nous, parce que pour des enfants, par exemple, de 8 ans, 7 ans, non seulement ils ont le dessin pour pouvoir s'exprimer, la parole au cas où ils veulent, pour pouvoir s'exprimer. Mais ils ont cette écriture, ce caractère chinois très particulier qui fait qu'ils arrivent à passer d'un stade à un autre.
Alors, on ne peut pas, nous. Oui, alors, si, on peut un peu, puisqu'avec les enfants, nous, on travaille avec le dessin, bien sûr. Enfin, les psychanalystes européens travaillent avec le dessin, aussi avec l'écriture, éventuellement, parce qu'on peut tourner des lettres, faire un dessin qui devienne une lettre, etc. Simplement, cette technique dont vous parlez pour une petite fille, elle est valable aussi pour les adultes. C'est-à-dire que les adultes aussi, et je crois que le professeur Roux, quand il a fait son analyse en France, Michel Guibal a un peu inventé cela avec lui, c'est-à-dire quelque chose qui avait à voir avec la parole et aussi avec l'écriture chinoise, ce qui n'est pas vrai pour nous, parce que les caractères, l'écriture française, en tout cas, ou européenne, par ses caractéristiques, ne se prête pas à ce travail-là. En réalité, le travail avec les enfants, on travaille aussi comme ça avec les enfants. Mmh. Hein, on voit que Winnicott, avec le squiggle, a inventé les formes.
Oui, mais là, c'est une écriture. C'est une écriture.
Oui, tout à fait. Mmh. C'est autre chose.
Oui, c'est pour chacun, je pense. Si c'est écriture pour appliquer, avec les enfants aussi, pour les adultes. Mais c'est pour chacun, je dis. C'est parce que, je pense, pour chacun, on a une façon de codage.
Oui, c'est ça, parce que
s'inscrive dans notre propre histoire. Et c'est ça, l'inscription devient une sorte d'écriture.
C'est ça, parce que la langue chinoise est monosyllabique. Il n'y a pas beaucoup de sons, mais il y a beaucoup de caractères.
Oui.
Et c'est la combinaison des caractères qui font des mots nouveaux. Hein. Mmh. C'est une sorte de condenser la langue chinoise d'équivocité. Et l'agencement des nombreux caractères qui peuvent être... On peut dire qu'il y a des scansions dans l'écriture, alors que chez nous, bon, la scansion lacanienne, c'est dans le langage. Alors que vous pouvez faire des scansions ou des regroupements de signes qui vont faire le même effet que la scansion, hein, qui vont introduire une sorte d'équivocité chinoise qu'on ne peut pas, effectivement, qu'on ne trouve pas dans nos systèmes à nous.
En Chine, c'est toujours le un syllabe. Elle présentait plusieurs caractères chinois. Dans mon pratique, l'analysant chinois est sur le divan, parfois il dit quelques phonétiques. Oui. Et je ne sais pas c'est qui veut dire quoi. Donc je demandais c'est quel caractère. Tu veux dire quel caractère? Mais il dit le caractère à gauche et comment écrire à gauche, comment écrire à droite, ou comment écrire le haut et comment écrire le bas. Donc je comprends, il veut parler quoi. Même si dans le même caractère, le caractère, il est composé beaucoup de traits, mais. La prononciation, parfois, il peut présenter quelques traits. L'autre trait, c'est rester silence. Quand je demandais comment écrire le caractère, en fait, c'est ouvert beaucoup de chemins. Donc, il peut association, libre beaucoup de choses, oui.
Peut-être qu'un jour, on ira vous copier un peu là-bas. Parce que moi, je trouve, par exemple, que quand on entend quelqu'un dans un cabinet en France, quelquefois, on dit « comment vous l'écrivez ?» comment vous l'écrivez, parce qu'il y a aussi une équivocité, mais qui n'est pas aussi riche que chez vous. Mais je pensais donner un exemple là pour d'équivocité, par exemple, avec le mot allègement. Si quelqu'un dit cet allègement, on peut dire comment vous l'écrivez, parce que ça peut s'écrire A-2-L-E-G-E-M-E-N-T, mais ça peut se dire comme allègement. A-2-L-E-Z, plus loin J-E, plus loin ment, M-E-N-S. Et on sait combien mentir, c'est se mentir à soi-même, par exemple. En analyse, on se ment souvent à soi-même avant de plus se mentir. Alors là aussi, il faudrait presque faire écrire aussi certains mots. Et on dit comment vous l'écrivez. Mais alors on nous répond, alors je l'écris en deux mots, en un mot, etc. Et on fait entendre quelque chose de l'équivocité à l'adulte aussi. Mais nos caractères sont beaucoup moins riches, c'est vrai. Mais ça, c'est très intéressant de voir comment vous, vous l'utilisez d'une manière assez courante, voire habituelle, me semble-t-il.
En Chine, c'est presque 70% de caractères chinois. Il est composé de deux parties. Une partie un peu prononciation dans le caractère chinois, mais l'autre partie, c'est jamais prononciation. Ce n'est pas dessiné la prononciation. Il toujours reste silence. Mais c'est ensemble, c'est le caractère chinois. Mais c'est pour moi je pense, et oui, si je veux étudier le caractère chinois et avec le rapport avec l'inconscient freudien, mais c'est à cause de ça.
Voilà. Alors, je crois qu'il y a une thèse, une trouvaille, une formule, je ne sais pas comment le dire, que le professeur Rouault soutient ou expérimente, et il dit qu'il en a pour de nombreuses années avant de pouvoir l'affirmer tout à fait, et qu'il souhaiterait bien, me semble-t-il, la mettre en expérience aussi, ou en contact, ou avec des analysants occidentaux, c'est l'inconscient est structuré comme l'écriture chinoise. Je me trompe dans cette formule, ou c'est quelque chose comme ça qui est...
Exactement.
C'est
cette formule. C'est-à-dire, comme j'ai tout à l'heure, je dis, c'est l'écriture chinoise s'inscrive dans notre propre histoire. Même pour un gens jamais apprendre l'écriture chinoise, pour eux, il y a un caractère. Il y a un caractère pour analyser. Mais un problème pour vérifier pour les Occidentaux, c'est qu'on n'a jamais vu, on n'a pas appris pas les caractères chinois. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Non. Parce que il y a quand même un caractère.
On va peut-être, si vous le voulez bien, continuer en parlant un peu des spécificités de votre travail de la psychanalyse en Chine, à partir des spécificités qui nous paraissent comme ça quand on est psychanalyste. On se dit comment ça peut se passer. Il y a la place du maître. Alors, l'importance du maître dans la culture chinoise, que je trouve tout à fait intéressante et qui est reprise, me semble-t-il, dans cette école de Chengdu, c'est-à-dire avec des relations très conviviales entre le professeur Rowe et ses élèves. Et...
Moi, je trouve que j'ai de la chance à trouver M. Rowe. Et il nous donne beaucoup de choses, pas seulement sur la connaissance, le savoir de la psychanalyse, mais aussi comment être un humain. C'est un peu fort, je pense, cette phrase.
On peut être fort, on peut être fort.
C'est trop fort pour dire ça, mais c'est vraiment, il nous transmettre des... Comment faire des recherches, par exemple. Comment faire les recherches. Au début, c'est comment chercher les documentaires, par exemple. Et comment organiser tout ça. Et en même temps, il est un professeur très... délicat. Il y a une tendance entre nous. Par exemple, en printemps, il nous amène dans la campagne. On prend du vélo dans la campagne, sous les arbres de pêche, sous les fleurs. On prend le thé, et on discute, et on discute plein de problèmes.
Plein de choses.
Oui, plein de choses. On s'amuse. C'est un professeur et il nous donne les hits aussi.
Comment, on était parfois à faire un voyage.
Oui, on fait des voyages en même temps, en même temps des recherches aussi. Mm. Par exemple, les coutumes des minorités et minorités de Na.
Voilà. Ethniques, oui, des
cultures. Oui, voilà.
Pour aller visiter des minorités, minorités ethniques en Chine.
On a l'impression d'avoir affaire à une espèce de professeur, mais philosophe, à la manière de Socrate ou autre, qui a amené ses disciples discuter et autres. On a vraiment l'impression de ça, vous entendre parler.
Oui, la relation de maître et relation entre maître et élève. Maître-élève, c'est, comment tu sais, ancien, la relation entre eux, c'est très, très, très différent comme maintenant. Maintenant, dans l'université, la relation de maître et élève, c'est maintenant en Chine, dans l'université, la relation un peu l'air en Occident. Mais en Chine, ancien, la relation de maître et élève, c'est très différent que maintenant. Je me souviens une phrase dans l'entretien de Confuse, le livre de Confuse. Je pense, le monsieur Ho et Tako, une phrase dans l'entretien de Confuse. La phrase comme ça, il a dit, allez dans la campagne. Avec quelques jeunes hommes, nager dans la rivière, danser dans la pluie et dans le vent, et puis revenir en chantant. Voilà, c'est la phrase dans le
Confuse.
Je pense, monsieur Tako, c'est la phrase. Donc, parfois, quand j'ai été là aussi, toujours dans le week-end, toujours prendre le vélo, faire une promenade dans le banlieue de Chengdu, dans l'été, vous faire un voyage un peu long de voyage, visiter quelques lieux, voilà, pour discuter quelque chose. Je pense beaucoup de choses, c'est pas transmettre sur la salle. Parfois, beaucoup de choses, c'est transmettre
en faisant.
Voilà.
Ce qui relève, c'est pas seulement le discours universitaire, c'est pas seulement la parole, c'est aussi autre chose.
Oui.
Aussi, on a une phrase qui dit un jour un professeur, un maître, pour toujours votre père.
C'est ancien, donc
Monsieur Ho est en même temps un père symbolique aussi.
Oui.
À l'université française, on a toujours cette espèce, avec les professeurs universitaires et les professeurs de faculté, on a toujours cette espèce, ce qu'on appelle le mandarinat où le professeur gère ses élèves, même après la thèse, même quand les élèves ont 50 ans ou 60 ans, il y aura toujours le professeur au-dessus et qui ne les verra toujours que comme ses disciples, mais en dessous. Et ça, à l'université française, on l'a toujours, ça. On a toujours cette école du père mandarin qui est au-dessus.
Oui, mais en fait, ça fonctionne pour très peu de... Si, ça fonctionne bien.
Oui.
En tout cas, ça évoque les débuts de la psychanalyse à Vienne, avec Freud et ses élèves aussi, où il y avait des relations très proches, des balades, où ils allaient ramasser des champignons ensemble, ils faisaient des choses comme ça, je crois. Mais ça me paraît beaucoup plus philosophique. D'ailleurs, je crois que l'enseignement se fait dans un département de philosophie, c'est ça ?
Exactement, oui.
Et puis la formation aussi, ça me fait penser à la formation des psychanalystes de l'école de Chengdu, parce qu'il y a des psychanalystes ailleurs dont nous ne parlons pas aujourd'hui, bien sûr, en Chine. Mais à l'école de Chengdu, si j'ai bien lu la Chine sur le divan des entretiens du professeur Hua Datong, avec Dorian Malevic. La formation se fait en trois étapes que je trouve très intéressantes parce que, bon, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant que nos formations peut-être. Il y a la cure analytique qui est le point numéro un. Le point numéro 2 étant, me semble-t-il, la connaissance des théories analytiques différentes qui ont à voir avec l'inconscient freudien et la connaissance des concepts, la conceptualisation, qui vous permet de créer des concepts qui ont à voir avec la culture chinoise et qui n'ont pas été trouvés ni étayés jusqu'à présent, en particulier par rapport à cette lecture de l'inconscient par l'écriture. Et puis, la troisième partie, me semble-t-il, est la culture elle-même, c'est-à-dire en histoire, en sciences, en mathématiques. J'ai compris les choses un peu comme ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous auriez envie de commenter un peu ce que la systématisation avec laquelle je présente cela?
C'est comme ça. Parce que si on veut devenir un psychanalyste, on a toujours notre propre problème. Donc, une analyse personnelle, c'est obligatoire. Mais en Chine, la psychanalyse, c'est tout à fait une nouvelle chose. Donc, un certain de connaissances, c'est aussi... on a besoin de ça. C'est pourquoi les étudiants ont toujours suivi les cours. On a lecture de Lacan, de Freud, et en français et en anglais. On n'a pas d'écriture chinoise. Il n'y a pas beaucoup de traductions. Surtout en Lacan, il n'y a pas. C'est notre travail en futur pour traduire. Naturellement, ça devient notre propre recherche continuée. Une recherche personnelle aussi, une recherche théorique aussi. Donc ça devient ces trois niveaux.
Alors ce qui est très différent, je trouve, en France, c'est que pour nous, la psychanalyse est souvent liée avec la médecine, avec la psychiatrie, avec la psychologie. Mmh. Alors que pour vous, ça n'est pas du tout lié. Vous êtes psychologue, mais vous pourriez être philosophe ou mathématicienne. Mmh. Bon. Nous, ça existe aussi, mais c'est quand même une très petite minorité de personnes qui... Et pour le public français, ils s'adressent aussi bien à un psychiatre qu'à un psychanalyste, souvent, parce qu'ils ne savent pas trop la différence. Voir un psychothérapeute, c'est pour eux... Il y a une espèce de melting pot, là, où on s'adresse indifféremment aux uns aux autres, alors que ce ne sont pas les mêmes métiers. Et qu'on voit bien que dans votre formation, vous mettez en place quelque chose de nouveau. On s'adresse au psychanalyste et non pas à un médecin ou à un psychologue. Et je trouve ça très intéressant.
Oui. C'est dans la formation avec M. Ro, on n'a pas de niveau licence. Et on a juste le master. C'est-à-dire, les étudiants viennent de... domaine tout variable. Il y a les... c'est psychologie. D'abord, j'ai une formation en psychologie. Mais par exemple, Relay...
Philologie ancienne de Chine.
Mais aussi, il y a des autres domaines. Par exemple, comptable. Il y a des... des gens font
des physiques.
Des autres. Enfin,
biologiques.
Biologie aussi.
Biologie et physique.
Donc, des gens qui adressent à l'analyse.
Moi, j'aurais voulu savoir, en tant qu'étudiant en thèse et autres, est-ce que vous avez eu envie, ou vous allez avoir envie, ou vous l'avez déjà fait, de faire une analyse de vous-même?
Bien sûr. C'est au début. C'est jusqu'au...
Ça commence par ça.
Parce que, je dis, si on veut devenir un analyse personnelle, c'est obligatoire.
Oui, faire un psychanalyse. Faire chez un psychanalyse chez M. Ho ou à l'autre psychanalyse chinois, c'est obligatoire. Devenir le psychanalyste.
En fait, le thème de recherche, c'est lié à notre propre propre analyse aussi. C'est-à-dire, pourquoi j'ai choisi la sexualité féminine? C'est ma propre, vraiment, c'est ma propre question. Recherche, voilà, question. C'est la question à poser à moi, c'est à ça. Moi-même.
On commence donc par la cure, et puis après, la cure vous dit, en quelque sorte, vous découvrez si vous avez envie ou pas de devenir analyste.
Oui.
Et si vous avez envie, ben, vous poursuivez par le deuxième temps, qui est la conceptualisation, tout en ayant mathématiques, écriture ancienne, je ne sais pas, plein de choses.
Ouais. Je voulais revenir au travail que tu fais sur la sexualité féminine. En France, on sait que, enfin, j'espère que je ne me trompe pas, on sait que la sexualité féminine a été plus ou moins mise en avant avec le féminisme des années 60 en France et en Europe. Est-ce qu'on a ce même mouvement en Chine où les femmes se découvrent petit à petit, et comment ça se passe?
La Chine, c'est, je pense, d'abord la relation entre les femmes et les hommes, c'est différent, et la relation conjugale, c'est différent, et puis la relation entre la mère et les enfants, c'est un peu aussi différente. Donc, il faut, à côté de ça, avoir la place des femmes. Aussi, chez Mao, il dit une phrase, c'est « Les femmes sont moitié le ciel. » C'est moitié le ciel.
La femme est moitié le ciel.
La femme est moitié le ciel. Donc, dans ma tête, je dirais, en fait, les femmes chinoises, par rapport dans la place de familiale et dans la place sociale en même temps, ont une place très libérale, en fait, très libérale par rapport à la place des femmes occidentaux. C'est ouais. Ma compréhension personnelle.
On a vu d'ailleurs, il y a eu des reportages sur des sociétés chinoises qui sont, alors je ne sais plus à quel endroit, mais qui sont des sociétés très fermées, où il y a un matriarcat qui domine au sein de ces peuples, enfin de ces minorités, oui.
Oui, c'est chez Na. C'est chez Na. Là, on a visité le village.
21 jours.
Oui.
Vous pourriez nous en dire un peu quelque chose de ce village que vous avez, donc, vous avez fait voyage, c'est ça, d'études en quelque sorte, ou de connaissance de cette culture.
Oui, c'est très intéressant là-bas. Très intéressant, c'est parce que là, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage, ni père.
Sans mari.
Ni père, sans mari. Et il y a... Il y a un auteur qui s'appelle Cai Hua, écrit un livre en français qui s'appelle Une société sans père ni mari. On a visité là-bas. C'est la femme qui soutient la famille. Et l'important, c'est le nom que la famille hérite, c'est le nom de la mère. Pourquoi il n'y a pas de père? C'est parce que la femme reste à la famille. Mais ils ne se mariaient pas, donc elle reste là. Et pour qu'on ait les gens qui l'aiment, ils pouvaient visiter dans la nuit les femmes, secrètement. Donc on ne sait pas où est le père de l'enfant, qui est le père de l'enfant. Parce que ce sont des hommes, ils viennent secrètement, et puis quand il fait jour, ils partent. Voilà. Et c'est la femme qui enlève des enfants. Et la femme et son frère élèvent des enfants. C'est ça que j'ai vu. Oui.
Je n'ai pas très d'accord de l'idée de la société ni père et son mari. Pourquoi je dis ça? Oui, c'est vrai. Et le père biologique de l'enfant, c'est un peu difficile pour trouver. Mais le père de social. Ou le symbolique de père, le père symbolique.
Il existe.
Oui, il existe. Parfois, l'oncle. Oui. L'oncle, toujours. Est, oui,
est là. Le père symbolique, oncle. C'est l'oncle.
Oui, mais bien sûr, c'est trop différent que notre société. La structure est un peu différente. Mais je crois que c'est le symbolique de père être là, c'est pas grave, mais je pense, oui.
Oui, alors qu'actuellement, notre société européenne, l'attente à vouloir faire joindre père symbolique et père réel, dans la mesure où tout le monde se met à chercher dans les gènes, avec des examens de laboratoire, qui est le père. Mmh. Alors que là, on voit bien que le père, c'est le père symbolique et le père réel, enfin, bon, n'est pas forcément, ça ne correspond pas forcément.
Oui, en vue de anthropologie, oui, peut-être on peut dire la société ni père sans mari, mais en vue de psychanalyse, je pense, c'est l'essence, la structure essence, c'est la même comme notre société.
Oui. L'enfant se structure à partir du père symbolique, donc de l'oncle dans ce village.
Il y a toujours un père qui dit non, ça veut dire. Il y a une personne qui dit non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas, n'a pas. Ça, c'est un père symbolique.
C'est ça, c'est celui qui apprend à l'enfant à vivre dans la société où il est né.
Pourquoi je dis ça? Enfin, dans la société de la société là, et l'oncle, comme l'autre, l'oncle s'appelle vous, s'appelle vous. C'est tout le oncle. Tout l'anglais s'appelle vous, oui. Mais vous, mais je pense en Chine, très ancien, en ce moment-là, il n'y a pas de s'appeler le père, le vrai père.
Oui.
Et l'autre anglais, c'est le même mot aussi, c'est le vous, c'est le fou.
D'accord.
C'est le fou. Donc, c'est, au début, c'est même.
C'est le même son.
Appeler le père vrai et l'autre oncle, c'est le même mot, fou.
Oui.
Voilà, je crois que c'est ça.
Très bien, nous allons devoir conclure. Annie.
Bon, je vais dire qu'on a dit finalement très très peu de choses, très intéressantes, mais qu'on avait eu un débat préparatoire très très riche. Alors j'espère que... Oui, il y avait plein d'autres choses, donc j'espère que nos amis pourront revenir pour nous parler d'autres choses aussi. Et puis aussi pour dire que on parle de la psychanalyse chinoise, mais il s'agit, à vrai dire ici, de représentants de la psychanalyse de Chengdu, et que toute la psychanalyse chinoise n'est pas représentée ici. Nous ne représentons pas des courants comme la psychanalyse allemande ou la psychanalyse américaine, qui sont extrêmement différentes et que je ne pourrais pas interroger parce que je n'ai personne ici qui la représente et que par ailleurs je ne connais pas. Et où la nécessité de la cure analytique n'est pas, je crois, la cure n'est pas nécessaire à être psychanalyste dans d'autres courants chinois de psychanalyse, me semble-t-il.
Bien, mais écoutez, j'espère que vous allez revenir. Annie se prépare pour les autres émissions. Aujourd'hui, nous étions dans l'ambiance chinoise en psychanalyse, avec la participation d'Annie et de... Je laisse Annie dire les noms.
La participation de Yang Yu et de Yan Rilai.
Oui.
Alors, nous avons plusieurs références à donner, puisqu'il y a quand même eu beaucoup d'émissions et de livres qui ont été écrits sur la psychanalyse et la Chine. Vous pouvez trouver donc sur internet lacanchine.com avec des émissions également sur Arte Radio. Il y a un livre de Michel Guibal qui est... Non, ce sont des articles de Michel Guibal qui sont également sur lacanchine.com. Et nous avons donc deux livres, La Chine de la psychanalyse de Philippe Poret, qui est sorti chez Campagne Première, et La Chine sur le divan, entretien avec Dorian Malovic, avec Huo Da Tatong.
Rodatong,
chez Plon. Vous avez également alors un document en PDF que vous pouvez trouver sur internet, Le sujet chinois dans la demande de la psychanalyse de Régnier Lancel, Université de Paris 7, Denis Diderot. Voilà, donc j'espère que si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous faire un petit signe sur les commentaires de Autre Radio, Autre Culture. Je vous remercie tous les trois et je vous dis à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Ici Autre Radio, Autre Culture, émission qui sera également diffusée sur 6e Paris Jazz. Au revoir.
Autre radio, autre culture.